Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va passer la matinée ensemble, comme d'habitude, en deuxième heure d'émission. Vous prendrez des notes déjà parce que je vais vous proposer, avec mes invités qui sont des spécialistes du vin, sommeliers, je vais vous proposer des accords mets-vins pour vos repas des fêtes. On a toujours envie d'avoir des suggestions, alors c'est ce qu'on vous proposera en deuxième heure d'émission. On va également parler de ceux qui sont un peu trop souvent oubliés, ceux qui sont dans la rue. Vous savez que beaucoup de gens sont seuls à Noël, puis on a une pensée en particulier pour les itinérants. La température nous fait vivre toutes sortes de choses là, par les temps qui courent et être dehors la nuit quand il fait moins 15, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé abominable. Il n'y a pas assez de refuges à Montréal, il n'y a pas assez de lits disponibles dans les refuges. Encore ce matin, il y a un appel à l'aide, un grand cri d'alarme qui est lancé par la plupart de ceux qui s'occupent justement ces organismes de bienfaisance un peu partout au Québec, mais en particulier à Montréal, parce que Montréal étant la ville où il y a le plus d'itinérants, c'est sûr que les besoins sont criants. Je recevrai tout à l'heure, étant donné que je suis quand même marraine de Notre-Dame de la Rue, qui est un peu l'œuvre reprise par l'abbé Claude Paradis depuis la mort du père Pops, qu'on appelait le bon Dieu dans la rue, et qui est mort, j'ai encore de vérifier, je me disais, mon Dieu, ça fait combien de temps qu'il est mort, le père Pops? Il me semble que ça fait pas longtemps, mais ça fera un an en janvier dernier, comme quoi le temps passe vite, mais que les besoins sont toujours aussi criants. Et Claude Paradis, c'est celui que je reçois régulièrement à l'émission, qui nous a raconté cette année encore qu'il y avait environ 150 personnes qui étaient mortes seules et dont le corps n'a même pas été retrouvé, pouvez-vous croire? Vous souvenez-vous de cette entrevue qu'on avait fait ensemble? C'est tellement prenant. L'abbé Paradis sera là tout à l'heure, avec un nom comme ça. Il faut qu'on l'écoute. Il doit être pas loin du bon Dieu quand même, tu sais, quand tu t'appelles l'abbé Paradis. En première heure d'émission, on va revenir sur cette année 2018, justement. Une année où il y a eu la feuille verte qui a été... la feuille verte de potes, qui a été, bien sûr, beaucoup au jour, dans nos discussions. La feuille verte, la vache bleue pour le lait, les gilets jaunes en France dernièrement, Trump, le mouton noir... La dégringolade de la bourse qui nous fait voir rouge. Bref, c'est une année haute en couleurs, un peu comme le logo de la CAQ qui est devenu le gouvernement. Nous allons en discuter avec nos trois invités. Christian Dufour, notre politicologue favori.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être là, Christian. Régent Parent, ex-président de la Centrale des syndicats du Québec, chroniqueur au Journal de Montréal. Merci, Régent.
Bonjour Isabelle.
Et Stéphanie Grandmont qui est avec nous, chroniqueuse à la presse, en finances personnelles, section affaires. Salut Stéphanie.
Bonjour Isabelle.
Merci beaucoup d'être là tous les trois. Vous avez jeté un regard analytique et j'espère un peu émotif quand même, parce que faut que ça lève cette affaire-là, faut que ça soit le fun pour nos auditeurs. On veut aussi aller chercher l'émotion, parce que il me semble qu'on en a vécu beaucoup cette année. Tour de table rapide, je commence avec toi Christian, ce qui t'a été le plus... Justement, émotivement venu te chercher cette année, ça a été quoi, tu dirais là?
Écoutez, si je veux vraiment répondre à votre question précisément,
ça serait bien.
Ouais. C'est l'été passé.
Il y en a pour une demi-heure.
Non, mais c'est parce que ça a peut-être pas intéressé tant de monde que ça. Mais tout le dossier sur l'appropriation culturelle l'été passé, là, moi, c'est venu me chercher très fortement parce que je trouvais que on voulait limiter la liberté d'expression des créateurs.
Ouais.
Pour moi, c'était comme un concept raciste à sa face même, qu'il n'y avait pas de place dans une société libérale comme le Québec. Et l'été, d'habitude, il n'y a pas de débat sur des choses très importantes et ça a occupé beaucoup l'été. Donc moi, personnellement, ça, c'est venu me chercher et c'est je vrai. Suis contre ça à mort, je tiens à le redire.
Je l'ai marqué, tu as vu? Canada.
Canada, tu sais, bon, je
Canada
pense que...
Canada et autres slaves, parce
c'est
que
ça, donc,
parce que
une des forces du Québec, on a des défauts, c'est qu'on est une société avec une grande liberté d'expression, c'est un plus, c'est un capital, et je me suis senti menacé, pour être franc, cet été.
C'est vrai?
Ah ouais, vraiment, ça m'a touché beaucoup, c'est venu me chercher très profondément, moi, ça.
Ouais. Parmi tous les sujets peut-être difficiles à aborder, tu sais, quand on disait « partez de Noël », parle pas de politique, parle pas... J'avais des invités cette semaine qui disaient, pas plus tard qu'hier, je pense, faut pas parler, on parlait de chicane de famille, puis Geneviève Saint-Germain était là, puis disait, vaut mieux éviter de parler, genre, crucifix à l'Assemblée nationale. Tu parles pas de ça. C'est genre dans un party.
Avec Lucien, on peut pas en parler.
Mais
ça,
l'appropriation culturelle, ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait éviter. Surtout si t'as des immigrants dans ta famille ou si t'as des gens qui sont extrêmement pointilleux là-dessus.
Mais les immigrants sont pas nécessairement pour ça. Et moi, je trouve qu'au contraire, on peut parler de n'importe quoi. C'est quoi cette idée-là? Je trouve qu'il y a une façon d'aborder les choses, je pense. Mais moi, je suis pas contre. Quand on peut pas parler de ça, puis de ça, puis de ça. Mais ça, chez nous, quand on était jeunes, des fois, tu peux pas parler de ça, fais attention. De quoi on a peur, au juste? On parle de n'importe quoi. C'est ça, une société libre et démocratique. Ouais. On peut aborder tous les sujets. Il y a une façon de le faire respectueuse des autres.
C'est ce qu'on essaie de faire, nous, tous les matins. Régent Parent, le dossier qui a été cherché le plus émotivement cette année-là?
Ben, le dossier. Moi, j'ai toujours de la misère avec le dossier, mais je dirais que c'est une année.
C'est pour ça que je fais exprès.
Oui. C'est bien vrai, dans le fond. Je dirais que c'est une année, à mon avis, qui est charnière. Mm-hmm. Dans le sens où des éléments qui sont plus loin de nous, mais qui risquent de nous rattraper. Je regarde. Tu sais, c'est.
En France?
Christian, non, mais non? C'est plus loin que la France, l'Allemagne.
Ah, oui.
La montée de l'extrême droite, quasi. Un parti néo-nazi là, qui prend de plus en plus de place dans l'enceinte. Madame Merkel qui est en train de se faire passer par-dessus bord. Effectivement, les gilets jaunes en France. Le Brexit en Grande-Bretagne, je veux dire, un peu l'incapacité de l'Union européenne de trouver finalement un terrain qui fera en sorte que tu es capable de resserrer les liens. Je regarde les PAC, migration, réfugiés, transition énergétique. Je pense qu'on est dans une année où... on commence à rechercher. Puis là, si je me rapproche, je regarde l'élection provinciale. Ouais. C'est la troisième voie. Là. C'est comme une première en 70 ans. Là,
d'une c'est quand troisième... même assez fabuleux, ça.
Exactement. Ouais. Ça va nous mener où? Pendant que je regarde, les voisins ont élu un gouvernement de droite avec Ford, que c'est plus important de boire de la bière à bon prix que de protéger
des gens
la
de langue
culture
française,
francophone. Ouais. Ça fait que c'est plus l'espèce de bouillon actuellement où on se demande si ce monde-là, il s'en va où? Ça, c'est ce qui vient me chercher motivement. Ouais. C'est pas
et penses-tu que les Québécois, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, penses-tu que c'est près d'eux, ça? Toi, tu voyages, t'es curieux, l'Europe, ça t'intéresse. Est-ce que tu penses que ça intéresse le Québécois moyen là, qui est obligé de travailler tous les jours puis qui a peu de temps pour analyser ce qui se passe ailleurs?
Ben, je regarde l'intérêt qui s'est développé par rapport aux États-Unis depuis l'avenue de Trump. On n'avait pas ça avec M. Trump sur la présidence. De temps en temps, la presse publiait une page états-unienne, mais donc il y a de plus en plus d'attention à ce qui se passe ailleurs parce qu'on réalise de plus en plus que ça finit par percoler chez nous aussi. Ouais. Regarde, on parle pas d'Alena, là, mais ça, c'est un autre incident. Ça, l'Alena, ça a l'air bien loin du monde jusqu'à temps que ça te rattrape. Quand tu regardes que finalement, t'as un genou à terre, que le protectionniste américain, t'es pas à l'abri, que t'es en train de te faire siphonner, puis qu'on a un premier ministre qui marche à quatre pattes. Je regarde, moi, la péréquation, tu parles d'un dossier là, qui est venu me faire tétiller, mais ça, c'est proche, là. Tu sais, on reprochait à M. Legault d'avoir parlé de l'énergie sale de l'Alberta. C'est de l'énergie sale, le pétrole. Maintenant, on peut pas s'en passer complètement maintenant. Ben, ça veut pas dire que ça la rende autant plus propre parce qu'on peut pas s'en passer. Et là, vous avez un chèque de péréquation. Mais encore, si je regarde l'achat de Trans Mountain à 4,5 milliards, ça naît de la péréquation pour l'Alberta, ça. Là. Ça fait qu'on commencera pas à être gêné parce qu'on reçoit un chèque de 13 milliards.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, Régent.
C'est vrai?
On pourrait commencer un débat, mais c'est pas le
oui.
Le lieu.
Ah oui, tout à fait vrai. Tiens ça, le débat. J'y viens, Stéphanie.
Mais cette semaine, pour enchérir, encore 1,6 milliard là, que Ottawa va donner aux compagnies pétrolières de l'Ouest. Je sais pas là, si c'est pas de la péréquation, qu'est-ce que c'est. Puis les gens ont tendance à oublier, mais quand il y a eu la crise du crédit là, en 2008, l'Ontario, là, ils étaient dans le pétrin. Mm-hmm. Qu'est-ce que Ottawa a fait? Combien de milliards, environ 10, ils ont donné pour sauver l'industrie automobile là-bas? Alors, c'est tout le monde qui a payé pour ça. Donc, moi, quand je lis des commentaires absolument épouvantables, du vrai Québec bashing sur LinkedIn, sur les médias sociaux, où là, on dit que c'est épouvantable, la péréquation, etc., je me dis, ben peut-être faudrait mettre les choses en perspective un petit peu, là.
Oui, justement.
Christian, je comprends très bien la réaction des Albertains, parce qu'il n'y a pas juste les Québécois qui sont sensibles. C'est que le problème, c'est le mot sale. C'est que pour les Albertains en 2018, là, leur identité est très liée au pétrole. Il faut le comprendre. L'Alberta, c'est beaucoup le pétrole, puis ils vivent une situation très difficile objectivement. Donc, de leur dire qu'ils sont sales, c'est comme ça qu'ils l'ont pris, là. Je trouve que c'est une grosse erreur de François Legault. C'est le mot sale qui marchait pas. Ça, c'est une énorme erreur.
Il a pas dit que les Albertains étaient sales.
Il a dit que c'était du pétrole sale.
Il a dit que le pétrole était sale.
Isabelle, moi, je trouve
que c'est... Régent vient de le bien
je trouve que c'est une énorme
erreur.
C'est une énorme erreur parce qu'il
l'a
dit.
Comment tu veux le dire?
Il l'a dit. Il aurait pu dire, écoutez, on est fiers de notre énergie propre, mais le mot sale, c'est une énorme erreur parce que sur le plan identitaire pour les Albertains aujourd'hui. Le pétrole, c'est beaucoup l'identité albertaine. Et nous, on peut le dire entre nous, mais c'était le premier ministre du Québec et on venait de recevoir, on venait d'apprendre qu'on avait gagné le gros lot en termes de péréquation, 13 milliards de dollars par année. Ça marche pas. Ça me fait penser, vous savez, Pierre-Éliott Trudeau...
Non, mais attends, le calcul, c'est pas parce qu'on en reçoit plus. C'est que par...
Ça vient, la péréquation...
Tu peux pas comparer avec l'île du Prince-Édouard où il y a trois personnes comparativement avec le Québec. C'est au prorata de la population normale. Il y a plus de monde ici.
C'est bien le seul cas où le Québec tient à se comparer avec des petites provinces comme l'île du Prince-Édouard qui est 60 fois moins peuplée que le Québec.
C'est pas le Québec qui veut se comparer. C'est qu'il faut mettre les gens.
Non,
on prend à déclencher tout un débat. Mais ce que je veux dire...
Non, mais c'est parce qu'il faut pas dire des fausses affaires.
Non, déclencher des fausses affaires.
Non, ce que je veux dire... Non, je dis pas que c'est toi. Tu vois, t'es comme un Albertain qui comprend à côté.
Je comprends les Albertains. Et là, il y a une francophobie qui va monter en Alberta. Il faut comprendre pourquoi. C'est parce que notre premier ministre a eu la maladresse, puis a persisté et signé. Il a dit, votre pétrole est sale. Quelle condescendance. Au même moment, on recevait un chèque de 13 milliards de dollars qui vient en bonne partie du pétrole sale. Ça marche pas.
Non, c'est pas ça déjà là de dire que ça vient en bonne partie du pétrole.
Ça, c'est pas vrai.
C'est évident.
Rétablis les choses. Stéphanie.
La péréquation.
Je n'aime pas Stéphanie, c'est pas Stéphanie, elle est nouvelle.
De toute façon, on n'a pas juste à parler. Savez-vous quoi? Juste pour finir, ça me fait penser, les gens ne m'aimeront pas, là, mais on peut bien s'amuser un petit peu. Pierre-Éliott Trudeau, père, le fils du jeune, qui n'avait pas la langue dans sa poche, lui. À un moment donné, il avait dit, les Québécois, parfois, se comportent comme des quêteux à cheval. Des quêteux à cheval.
Ouais.
Ben moi, je trouve que c'est un
dans la catégorie dénigrement bonjour. Hein?
Parce que là, on arrive avec notre condescendance verte à l'égard de l'Alberta. Puis là, on
mais non, mais c'est plus de la condescendance.
On vient d'en recevoir 13
Merci, Christian.
Christian, tu iras dans le nord de l'Alberta, tu iras dans un puits d'exploitation du sable bitumineux, là, puis tu vas réaliser que c'est sale.
C'est épouvantable.
Ouais, c'est pas ça que je ne nie pas ça. Bon, je dis que le premier ministre n'avait pas à dire ça.
Et là, maintenant...
Toi, tu peux le dire. Moi, je peux le dire.
Et le 13 milliards, Christian, là, moi, je comprends là, que tu es très reconnaissant au reste du Canada.
Non, je ne suis pas reconnaissant.
Mais tant qu'à moi, là...
Le
13 milliards, on finit par le contribuer. Parce qu'il faut que tu regarde l'ensemble du budget. J'aime bien ce que Stéphanie Grandmont mentionnait tantôt, là, le 6 milliards, parce que c'est vrai, j'avais pas donné 1,5 milliard ensuite cette semaine. Mais quand tu finis par regarder l'ensemble du budget fédéral, il n'est pas redistribué. Je veux dire, c'est pas en termes de dire, tu as donné 23%, je t'en remets 23% sur chacune des lignes. Les bateaux, ils se construisent pas au Québec. Je veux dire, on est en train de tuer l'industrie maritime au Québec.
Ouais.
Fait-il 13 milliards, des fois, là, on a peut-être l'air des quêteux à cheval, mais il y a du monde qui veulent nous tenir quêteux à cheval aussi. Ouais. Et moi, c'est pas parce que Pierre-Éliott Trudeau disait que je trouve que ça avait du bon sens que M. Trudeau disait.
13 milliards de péréquation, c'est un fait et vient pour la plus grande partie du pétrole sale de l'Alberta.
Mais ce qui est dommage avec l'Alberta, je pense, c'est que effectivement, ils avaient le pétrole. Quand ça allait bien, ils auraient pu en engranger des profits. Moi, je suis allée en Norvège en reportage et les gens là-bas, il y a à peu près pas de pays où le pétrole ou l'essence coûte plus cher. Ils font très attention. Pourtant, ils en produisent à qui mieux. Et ils ont tout mis ça dans un fonds qui est rendu un des fonds souverains les plus importants au monde. Il y a des trillions là-dedans. Et donc, au lieu de dépenser à tout vent l'argent qu'ils
avaient... Ou de donner des réductions d'impôts. Je veux dire, en Alberta, les gens...
Pas de taxes de vente.
Exactement. Il n'y a même pas de taxes de vente. C'est un peu absurde.
Je veux dire, c'est des choix qui ont été faits en Alberta.
Exact. Et au lieu de diversifier leur économie, au lieu de garder des sous pour... On le sait, là, que c'est cyclique, le pétrole. Voilà. C'est pas un mystère. Alors, au lieu de faire ça, ben ils ont dépensé au fur et à mesure. Et là, ils sont face à des choix difficiles. C'est certain que là... Ils sont dans le pétrin, alors... Mais malheureusement, ça aurait été ça aurait été ce qu'il y avait à faire, là, de miser sur les...
Mais c'est très juste ce qu'elle dit là, et je partage cette critique-là des choix albertains. Ce que je dis juste, c'est que là, il y a une espèce de panier de crabe au Canada en matière énergétique, et le Québec est un peu en dehors de ça, et notre premier ministre, par sa maladresse, par juste le mot sale, il nous a embarqués au cœur du problème, et là, il y a une francophobie qui va monter en Alberta parce qu'on est dans l'identitaire. C'est identitaire, cette affaire-là. Quand t'es albertain en 2019, je le rappelle, en 2018, je le rappelle, c'est le pétrole, ton identité, puis on vient de dire que c'est du pétrole sale. C'est juste ça que je dis.
Tout à fait. Ouais, mais
peut-être
que
ça va peut-être donner, excuse Isabelle.
Non, vas-y.
Ça va peut-être donner le choc que Stéphanie mentionne, ouais. Là, que les Albertains vont être bien d'avoir été obligés de redéfinir leur identité aux autres.
Je pense qu'ils vont se remettre à détester les Québécois comme malheureusement certains.
Se remettre, ils ont dû arrêter à un moment donné, puis on ne savait pas.
Il y a une vieille francophobie qui s'est réveillée. Il y a une vieille francophobie qui s'est réveillée. C'est jouer avec le feu quand tu joues avec l'identité.
Ouais. Non, mais vous savez, et comme Stéphanie vient de le dire très justement, l'industrie pétrolière, c'est cyclique, les crises. On a déjà eu ces discussions-là il y a une dizaine d'années. Et c'est puis le problème, puis c'est pour ça que d'une certaine façon, le fédéral regarde l'industrie pétrolière puis dit, bon, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Il faut diversifier notre économie de façon globale. Le dollar canadien qui est dans le dallo en ce moment, ça perd quasiment, j'exagère à peine, un dixième de cent par jour. En ce moment, il est rendu à 74, il était à 75 il n'y a pas si longtemps, puis il a été à 78. Je le suis, moi, le cours du dollar, je peux vous dire. Et comme beaucoup de Québécois qui vont passer du temps en Floride, entre autres, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a les exportateurs. C'est à peu près les seuls qui sont contents que le dollar baisse en espérant que ça va leur amener des contrats, mais c'est pas équivalent, c'est pas une somme, c'est pas automatique que ça arrive comme ça avec les politiques économiques de Donald Trump les dernières. Alors quand on regarde ça, on se dit comment ça se fait que le dollar canadien est encore un pétrodollar? Comment ça se fait? Que personne se soit dit, faut peut-être aller dans les énergies renouvelables plutôt encore d'aller puiser du pétrole dans des sables bitumineux. C'est ça, là, aussi. Non, on non, a un peu de vision,
c'est là, tu sais. Aussi, là, aux États-Unis, ils en ont beaucoup, là, de l'énergie, là, soudainement, là, avec les gaz de schiste, etc. Donc, nous, notre pétrole, oui, mais.
On va le boire?
C'est ça. Mais la demande est moins là. Puis là, on voit évidemment la croissance économique mondiale, qui était très forte les dernières années. Mais là, la croissance semble vouloir ralentir un peu. C'est peut-être normal, là. C'était peut-être insoutenable aux États-Unis. Il y a eu Donald Trump qui a donné un rush de sucre, là, comme on dit, à l'économie parce que avec toutes ces baisses d'impôts, ça a stimulé, mais ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Donc là, moins de croissance mondiale, moins de demande pour le pétrole, les prix baissent, etc. Donc,
tout de suite après la pause là-dessus. On a pris un peu plus de temps que prévu, alors on revient tout de suite après avec vos commentaires. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je me demande qu'est-ce qui est allé vous chercher émotivement là, cette année dans les grandes nouvelles, les grands mouvements qu'il y a eu, toute l'information qui a pu être véhiculée. Qu'est-ce que vous retenez de 2018? 514-790-9850. Alors, si on se fie au magazine L'Actualité, c'est intéressant parce que pour le magazine L'Actualité, la règle 2018, c'était en fait l'année tannée. Étiez-vous tannés, vous autres? Je vous représente mes invités, Régent Parent, Stéphanie Grandmont et Christian Dufour. On a abordé plusieurs éléments, plusieurs dossiers, les pétrolières. On a parlé de ce qui se passe en Alberta, de ce qui va moins bien. Mais au Québec, on a eu une année où on nous a dit, finalement, ça va plutôt bien, Stéphanie, au Québec.
Bien, au Québec, c'est fantastique. On a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire, à tel point qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Dans plein d'industries, on s'arrache les employés. C'est quand même fantastique. Donc, à Montréal, ça va bien.
Dans le reste du Québec, comment tu dirais? Comment tu évaluerais ça?
Oui, aussi. Puis ça se mesure, on le voit, dans le marché immobilier. Mm. Alors qu'à Vancouver, à Toronto, ça s'étiole. Là. Il y a vraiment une baisse importante des ventes et même des prix. Ici, nous, c'est comme si la hausse des taux d'intérêt n'a pas encore fait souffrir trop les propriétaires. Les gens qui veulent acheter des maisons sont encore au rendez-vous. C'est sûr, parce qu'il y a une croissance démographique. Les gens ont des emplois. C'est ça le principal facteur qui alimente les prix des maisons. Donc, on le voit au Québec, là, ça a monté de 5 % encore cette année. Alors, ça, c'est bien. L'économie roule. Non, des fois, on se concentre sur les mauvaises nouvelles, mais il faut le dire aussi quand il y a quand il y a du positif. Puis, effectivement, au Québec, ça va très bien. Là, il y a des secteurs comme l'intelligence artificielle, tout ça.
On a quand même beaucoup parlé de Bombardier. Il y a encore une nouvelle là-dessus ce matin. Comment vous évaluez finalement la performance de Bombardier cette année? Est-ce ce qu'on a appris sur les hauts salaires des dirigeants, sur le fait que le gouvernement du Québec avait quand même beaucoup donné à Bombardier, peut-être pas dans le bon véhicule de Bombardier, là, dans celui qui était moins payant, qu'on a fini par céder quasiment pour une pièce à Airbus? Comment vous voyez ça, Stéphanie, puis ben, Régent et Christian?
Je pense qu'il y a peut-être un manque de sensibilité de la part de la haute direction d'accepter, même d'aller chercher des fonds publics.
C'est payer de gros bonus.
On est au bord de la faillite, de dire, bon, ben si vous nous aidez pas, c'est la catastrophe, c'est toute la grappe industrielle de l'aérospatiale au Québec qui va s'effondrer, etc. Bon, d'accord, c'est vrai, là, c'est une entreprise qui est importante pour le Québec, mais ensuite, d'arriver puis d'avoir des salaires, des rémunérations qui sont aussi astronomique. Il y a comme une...
Mais il ne s'est rien passé là-dessus. Là. Ils ont quand même leur gros salaire, là, puis leur boni.
Ils même soupçonné de crimes, de délits initiés
ben
par
là,
rapport
il y a
à
une enquête, on va voir ce que...
Mais en même temps, moi, je rejoins Stéphanie sur le manque de sensibilité. Et moi, je n'ai pas prétention d'être aussi spécialiste qu'elle peut l'être, là. Mais j'entendais dernièrement des rapports puis des profs d'université qui conversaient sur la situation de Bombardier et il semblait y avoir un certain optimisme par rapport à l'entreprise, au fait d'avoir cédé à Airbus. Y a un espoir de valorisation de ce qui est investi comme fonds public puis tout ça. Fait que là, n'étant pas un spécialiste là, de la question puis de pouvoir dire oui, ça s'en va dans la bonne direction ou pas, j'ai pas cette prétention-là, mais en même temps, je pense qu'il manque énormément de pédagogie chez Bombardier pour expliquer ce qui se fait puis vers où ça s'en va. Et si effectivement la situation est en train de devenir rose, ben ça prendrait quelqu'un comme Stéphanie pour nous l'expliquer. Parce qu'à date, ben, j'avais de la misère et suivre. Ouais. Puis
non,
j'ai
quand on voit les baisses d'emploi, les coupures de postes, c'est sûr que c'est pas plus encourageant.
Ben là, ils disent les 2000. Il y a un article ce matin sur le savoir-faire québécois en parlant du Global 7500, le nouvel avion d'affaires de Bombardier, là, qui est un avion excessivement luxueux. Puis ce qu'on dit, entre autres, je sais pas si c'est vrai, là, faut croire le journaliste sur parole, les 2500 suppressions d'emplois de Bombardier au Québec sont en partie dues au fait que le développement de cet avion est maintenant terminé.
Okay. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que disait Stéphanie, parce que je comprends que des bonnes nouvelles, ça ne fait pas des bonnes nouvelles pour les médias, parce que dans le fond, on s'intéresse toujours plus au problème. Mais c'est quand même remarquable à quel point le Québec se distingue de façon positive sur le plan économique par rapport à tous les indicateurs. On n'est pas habitué à ça. Quand François Legault est arrivé, il a rendu un hommage implicite à son prédécesseur Philippe Couillard, ça a été une phrase. Il a dit « Les finances publiques du Québec sont en ordre ». C'est pas mineur, ça, les publics. Et quand on parle des problèmes de Bombardier, c'est vrai qu'il y a eu des mises à pied, mais moi, je compare avec l'Ontario. L'Ontario, dans le domaine de l'automobile, il y a eu aussi des grosses mises à pied, mais on sait que c'est un secteur qui est beaucoup plus en déclin fondamental, alors que l'aéronautique globalement, au-delà des problèmes, du va-et-vient, c'est un système qui est dynamique. Et je sais qu'Isabelle, parfois, je disais que le Québec, puis vous aimez pas toujours ça, le Québec est une oasis de prospérité, de liberté et de sécurité. Ben, je dirais plus que jamais, hein. Parce que nous, il y a une vague populiste qui
sécurité, balaie. Je suis d'accord.
Oui, oui, mais juste prospérité.
Prospérité moins qu'avant, je trouve.
Oh, ben, ça va bien. Regarde, Isabelle.
Ça va bien. C'est-tu combien qu'on... Non, mais je sais qu'on peut problèmes. Toujours se comparer, puis on va se consoler. C'est pire ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, avez-vous oublié les trop perçus? Dans le portefeuille de chaque Québécois,
non, mais
par Hydro-Québec.
Isabelle, c'est vrai qu'il y a des problèmes de ce genre-là et les journalistes sont là
ils
pour les fouiller.
Ils nous ont surchargé sur notre facture d'électricité.
Stéphanie vient de le dire. Globalement, c'est le plein emploi. L'économie fonctionne rondement. Pratiquement tous les indicateurs économiques sont bons. C'est pas comme ça dans le reste du Canada. C'est pas comme ça dans le reste du monde. Et sur le plan politique, il y a une vague populiste à laquelle Région a fait allusion tantôt, qui peut être un peu inquiétante d'extrême droite. Ben nous, notre version québécoise, c'est François Legault. Puis François Legault, là, c'est pas un extrémiste, c'est pas l'extrême droite. Je trouve que sur le plan politique, entre autres choses, l'année a été marquée par ça. Je trouve que le gros événement, ça a été la campagne électorale interminable d'ailleurs, qui a amené à l'élection de François Legault. Ben notre démocratie est vraiment saine et fonctionnelle. Hein. Puis on a réussi à congédier les libéraux parce que les gens ne voulaient plus rien savoir d'eux autres, à les remplacer par une nouvelle équipe. Là, on est encore dans la lune de mienne. Je suis sûr qu'on va leur trouver un tas de problèmes.
Alors, ben moi, là-dessus, tu l'as déjà dit, les Québécois ne veulent pas de changement. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment eu de changement. Là, je l'avais mentionné déjà en nom d'un moment donné avec Isabelle. On a changé les acteurs, mais on continue de jouer la même pièce de théâtre. Ça, de plus en plus, ça ressemble à ça, si je regarde là, les dernières déclarations.
Moi, est-ce que je peux vous donner une espèce d'intuition qui n'est pas scientifique? Je trouve, j'ai l'impression que François Legault risque d'être vraiment l'antithèse de Philippe Couillard, en ce sens qu'on reprochait beaucoup à Philippe Couillard d'être déconnecté des Québécois, d'être trop loin des francophones en particulier. Moi, j'ai peur que François Legault aille à l'autre extrême.
Soit trop proche?
Qui se colle peut-être, on le voit déjà d'ailleurs, là, il est rendu environnementaliste, qu'il soit un petit peu trop à l'écoute de l'opinion publique québécoise dans le côté superficiel et un peu démagogue parfois. Moi, je crains ça un petit peu, pour être franc, parce qu'il n'y a pas d'ancrage idéologique très profond. Là. C'est un homme d'affaires, c'est un comptable, c'est un Québécois très sympathique, nationaliste, mais moi, j'ai peur qu'il aille trop du côté de la mode. Là. Dominique Champagne, Dominique, là, est devenu très populaire, M. Legault le reçoit.
Mais il n'y a rien donné, il est juste poli. Il n'est peut-être pas poli que les Albertains, mais il a été poli que Dominique Champagne.
C'est très juste.
Voilà. On va aller à la pause là-dessus. On revient avec vos commentaires. 514-790-9850 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais partout au Québec. Dites-nous ce que vous retenez de cette année 2018. À tout de suite, tout le monde. On est en compagnie de Carl, un auditeur qui nous appelle au 514-790-9850. Faites-le vous aussi pour nous dire un peu comment vous voyez la fin 2018 avec tout ce qui s'est passé, Carl, cette année. Qu'est-ce que vous retenez, vous, surtout? Là? Qu'est-ce qui est allé vous chercher puis là, qui a créé une réaction vive chez vous?
Écoutez, l'idée, là, que moi, je, contrairement à M. Dufour, je trouve que la ligne à M. Legault vient remettre là dans la face des Canadiens le développement là de l'Alberta sur le pétrole sale. Moi, j'adore sa ligne. Je trouve que ça montre qu'au Québec, on est autrement orienté que le reste du Canada. Et ça ravive la québécophobie dans le reste du Canada. Puis pour moi, comme indépendantiste, je trouve que c'est le début.
Ah, ça fait votre affaire, c'est ça, oui.
C'est le début de la fin là, du Canada utopique, là, ouais. Nord, Est-Ouest. Moi, je pense que le Québec a aucun avantage à dealer avec l'Alberta. Moi, je veux voir le Québec s'épanouir dans le reste de l'Amérique, surtout au sud.
Merci beaucoup. Merci bien. Martial, votre opinion là-dessus?
Ben, j'ai la même opinion que le précédent interlocuteur. Là, puis je n'étais pas trop d'accord avec... un de vos panélistes là, qui disait qu'on faisait du Alberta bashing. Là. Moi, je ne pleurerais pas pour l'Alberta là, avec l'argent sale. Là. On paye nous aussi notre impôt fédéral. Donc, s'il nous revient 23 milliards ou je ne sais pas, 13 milliards cette année en péréquation, c'est comme un retour de TVQ ou de TPS quand quelqu'un a un bas salaire. Mais per capita, on a besoin, là, puis on va le prendre. Là, puis écoutez, ce qu'ils font avec ça, il déficite pas mal, le Trudeau, dans cet instant. Fait que je pleurerais pas pour l'industrie qui est seulement basée sur le pétrole en Alberta. Là. S'il pourrait au moins taxer la vente, là, il y aurait peut-être un peu plus d'argent, puis on pleurnifferait moins sur leur sort. Là,
merci. Merci beaucoup, Martial. Et ça va chercher le monde, là, l'Alberta, puis pétrole sale. Jérôme, bonjour.
Bonjour Madame, mes voeux à tout le monde, mais spécialement à vous, s'il vous plaît, restez en onde, c'est de plus en plus un plaisir de vous entendre.
Oh, ben vous êtes gentil, vous.
Ben, je vous en prie. Écoutez, moi, c'est un coup de poing sur ma gueule que j'ai reçu cette année avec l'avertissement de l'ONU qui disait qu'on avait 2 ans pour se secouer au niveau environnemental. Sinon, peut-être que la race humaine allait s'éteindre.
Ouais.
Et c'est pas rien. Et c'est pas non plus de quoi être très fier. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos petits-enfants, à nos enfants dans 30 ans ou 50 ans quand on va vivre des choses, en tout cas, on ne souhaite pas, là, mais si on se met à vivre des choses terrible. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On a reçu une terre et on vous remet...
Une poubelle. Oui, exactement.
C'est terrible, ça. Et je comprends pas que peu de gens semblent être secoués. On continue à acheter autant des gros camions, des tout ce que vous voudrez. On n'est pas encore saisi par l'ampleur de cette nouvelle-là. Je sais pas ce que ça va nous prendre, Madame Maréchal.
Ouais.
Je vous laisse là-dessus.
Merci beaucoup. Vous avez bien raison de nous rappeler ça. L'environnement, ça a été quand même un dossier dont on a fini par parler. Puis c'est bizarre, j'ai eu l'impression que même pendant la campagne électorale, je pense qu'on en a beaucoup parlé, nous, ici, à cette émission pendant la campagne, parce qu'elle était ce sujet-là était complètement mis de côté. On a, nous, au Québec, une ministre, Marie-Chantal Chassé, qui, moi, j'ai mis un 20 là-dessus, qu'elle finira pas son mandat parce que c'est rendu qu'elle parle aux journalistes les yeux fermés. Ça, c'est, je sais pas si vous remarquez
oui,
dans son point de presse. Elle parle aux journalistes les yeux fermés. Ça, comme bris de communication, tu peux pas faire. Puis elle prend des grandes respirations, genre, je les haïs, ils m'écœurent, ils s'y pouvaient arrêter avec leurs maudites questions que je comprends pas. Pauvre Marie-Chantal, sérieusement. C'est pas une job facile qu'elle a eue. C'est même étonnant qu'un si grand ministère, c'est un poste important. Tu donnes ça à quelqu'un qui
mais au départ, pour François Legault, ce n'était pas un poste important.
Mais il va falloir qu'il allume là-dessus.
Depuis quelques semaines, il allume, il est dans un processus d'allumage intensif.
Oui, mais il va falloir qu'il allume solide parce que c'est vrai, et l'auditeur a raison, c'est un dossier important. En ce moment même, il y a la ministre de l'Environnement du Canada, Catherine McKenna, qui fait un espèce de bilan environnemental où elle nous rappelle que les politiques canadiennes, bon, on essaye d'éliminer le charbon, on essaye d'investir dans des énergies renouvelables, propre. En attendant, tout le débat sur le pétrole sale, je sais pas si ça va en parler. Ça m'étonnerait beaucoup.
En France aussi, il faut pas oublier que le grand mouvement des Gilets jaunes part quand même de l'écologie.
De leur réaction par rapport à un prix de l'essence qui a pas de bon sens là-bas.
Je trouve qu'il y a une réaction. Cette année, c'est comme si l'environnement a vraiment pris plus d'importance un peu partout, quelque part.
Mais c'est vrai que c'est épeurant. Quand vous voyez, tu te dis, hey, dans deux degrés de plus, là, ce que ça créerait comme bouleversement chez nous. Je veux dire, au Québec, on est comme l'espèce d'endroit où on les vit tous, les changements climatiques. Regardez ce qu'on nous annonce. Vous avez vu, on va avoir du verglas là, au cours des deux prochains jours. Je veux dire, on n'aura probablement pas de neige à Noël. Ça peut encore changer. Mais je veux dire, même les météorologues, ils ont comme perdu un peu la notion du temps là-dessus.
Il faut se garder, Isabelle, d'attribuer tous les événements météorologiques au réchauffement climatique.
Mais le sinon, problème, à quoi l'autre?
Non, mais c'est parce que c'est devenu un peu... Moi, j'en suis de ça. Là.
C'est l'activité humaine.
Dans la mesure où ça devient l'idéologie dominante, une fois...
C'est pas une idéologie, Christian.
C'est qu'à un moment donné, il faut quand même rester un peu plus...
Je pense qu'il y a une urgence environnementale. L'auditeur a raison. En fait, puis je pense que Isabelle a mis le doigt sur la problématique. C'était pas sur l'écran radar de François Legault. Fait que Madame Chassé, il l'a placé là. Effectivement, c'est une de ses ministres.
La pauvre, on peut même pas la blâmer.
Très faible. Ben oui. Et c'est d'avoir manqué le cue, là, surtout dans la campagne électorale, parce que c'est vrai que l'environnement, ça a jamais vraiment marqué le pas dans les campagnes électorales précédentes. Et cette fois-ci, ça a pris une certaine importance. Et d'après moi, là, la prochaine décennie, ça va être une décennie capitale.
Après, Nicolas, tu sais, c'est important ce poste-là. Regardez en France, Nicolas Hulot qui a démissionné. Ouais. C'est pas rien, là.
C'est parce qu'il y a un gros décalage entre tes discours, les professions de foi, puis le comportement concret des individus. Et l'autre question, jusqu'à quel point le catastrophisme est utile?
Parce qu'on demande beaucoup au gouvernement, mais en même temps, les consommateurs, eux, est-ce qu'ils sont prêts à changer leur comportement? Donc, il y a trois choses qu'on peut faire. Arrêter d'acheter des gros véhicules utilitaires sport, c'est pas ça qui se passe en ce moment. Manger moins de viande rouge, ben c'est en train de se faire tranquillement.
Oui, on le fait. Au Québec, ça,
Moins voyager en avion, ça, c'est plus difficile. Ouais. Mais est-ce que nous, comme consommateurs, comme citoyens, on fait notre part. Mm. Il y a peut-être quand même un petit...
On a Marc qui nous appelle. Bonjour Marc, votre opinion sur ce qui s'est passé en 2018, ce que vous avez retenu là, de très marquant pour vous?
Oui, bonjour. Premièrement, permettez-moi un petit préambule pour vous dire à quel point vous avez une émission intéressante.
Merci.
Une émission qui présente également plusieurs points de vue, parce que je pense pas que M. Parent et M. Dufour sont du même côté de la clôture.
Madame Grandmont nous sépare.
Je les empêche de
chicaner. Non, mais c'est en discutant qu'on réussit à faire de grandes choses.
Voilà.
Maintenant, moi, l'événement marquant de l'année, je peux vous dire que ça a été l'élection du gouvernement de la CAQ. Mm-hmm. Pour la première fois depuis 50 ans, effectivement, on a arrêté de parler des querelles fédérales-provinciales, les bons, les mauvais. On a essayé de mettre ça de côté. Et ce qui est surprenant, c'est que la CAQ remplit la plupart de ses promesses. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un petit faux pas que M. Legault a fait, qui est lorsqu'il a traité le pétrole sale de l'Alberta. C'était pas sa meilleure, disons.
Fait que vous êtes d'accord avec Christian, là, qu'on peut le penser, mais on le dit pas.
C'est ça. Sauf qu'il faut aussi rajouter que c'est très, très facile de faire ce qu'ils appellent en anglais là, du Québec bashing, puisqu'ils nous disent qu'on importe notre pétrole du Moyen-Orient, alors que c'est totalement faux, puisque depuis les 15 dernières années, ça a changé complètement avec lorsqu'on a utilisé le pipeline puis qu'on a renversé son flot et qu'il s'en vient vers Montréal. On importe beaucoup, beaucoup de pétrole de l'Alberta et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait plutôt se concentrer, se focusser, pour expliquer aussi au monde à l'extérieur du Canada, là, à l'extérieur du Québec, je parle dans le reste du Canada, qu'effectivement, nous aussi, on fait notre part, puis on est quand même Canadiens.
Ouais. Merci beaucoup, Marc, de votre intervention. On revient tout de suite après. On est en compagnie de Stéphanie Grandmont, Christian Dufour et Régent Parent. Nos lignes sont pleines, alors on va encore vous donner, il nous reste très peu de minutes, l'occasion d'intervenir. Normand, tu me donnes le nom des auditeurs, s'il te plaît. Charles est avec nous. Merci, Charles, de nous appeler. Votre opinion là, sur ce qui a été le plus marquant cette année?
Ben c'est l'environnement, c'est qu'on dirait toujours que c'est une classe à part. Il faut faire du covoiturage comme 14 dans une Smart. Moi, je fais de la motoneige, je passe pour un polluant. Mais l'affaire qu'on regarde pas, c'est que dernièrement, il y a 4-5 compagnies, là, ils ont fait un avion pour aller dans l'espace, là, pour faire des voyages dans l'espace, une couple d'années. Là. Ça devrait être interdit. Là. Ceux qui ont de l'argent, qui ont 700-800 000, ça va coûter 1 million, prendre une ride dans l'espace, ben,
ça coûte cher en point de carbone, mettons, si on veut rembourser, là. Ça, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
On va planter des arbres sur Mars.
Exactement.
Non, mais c'est ça. Le Tesla, il a envoyé un char dans l'espace. Tous ceux qui envoient des satellites, ils n'allent pas rechercher les satellites quand ils sont plus bons.
Ouais.
On est en train de polluer là-bas. Il n'y a pas personne qui fait rien. Puis comme la madame a dit tantôt, c'est les gros camions. Moi, j'ai un camion qui consomme bon, beaucoup moins parce que c'est éco-diesel.
Oui.
Mais les voyages, ça, on peut pas rien faire.
Ouais.
Il y a du monde à côté de chez nous qui font 3-4 voyages par année.
Ouais.
Ça serait un par année. Vas-y 3 semaines, vas-y un mois, mais pas 3-4 voyages par année. Mais les voyages, il n'y a pas personne qui parle. Il y a 85 000 avions par jour qui se promènent sur la planète.
Ouais.
Mais y a pas, c'est tous nous autres qu'il faut vraiment couper sur le gaz.
Ouais.
Un petit véhicule, pas manger de viande. Mais la classe, mettons, plus à l'aise, je ne sais pas. Il n'y a pas personne qui dise qu'il faudrait couper ses voyages ou justement...
Tout à fait, ouais. C'est ça, vous avez l'impression qu'on pointe finalement le Québécois moyen en le faisant culpabiliser, alors que dans le fond, il y en a qui devraient se regarder un peu. Merci, c'est vrai qu'on voit souvent on voit la poutre chez l'autre, on voit la paille chez l'autre, mais pas la poutre dans son œil.
Ce que Stéphanie a dit quand elle a quand même cité les voyages en avion comme une cause importante de pollution. Il n'y a personne que je connais qui va moins voyager en avion pour ça. Et Nicolas Hulot, en France, le ministre de l'Environnement qui a démissionné, il avait été beaucoup critiqué pour ça. Parce qu'on lui disait, c'est quelqu'un qui est toujours en avion, qui voyage tout le temps. Évidemment, lui disait, j'ai pas le choix. Mais votre auditeur a raison quelque part. Il y a comme un discours à un moment donné.
Mais si on paye nos points de carbone, on est-tu correct? Moi, c'est juste ça, je veux savoir. C'est ce que tu compenses. C'est-tu correct?
Ben, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Puis c'est un élément. Il y a 15 ans, on parlait pas de ça, là. Planter des arbres, payer ses points de carbone. Là, de plus en plus, mais quand tu prends l'avion...
La bourse du carbone est ici, à Montréal, en plus.
T'as assez peur de te faire poser la question.
Mais moi, ce que je crains, là...
On a Gilles avec nous. On a Gilles. Bonjour, Gilles.
Bonjour.
On vous écoute.
Premièrement, oui, premièrement, si j'ai encore le droit, joyeuse fête à tout le monde.
On a le droit.
On a le droit? Ah, ben, je ne sais pas, madame.
Ici, on ne dit pas joyeux décembre. On peut dire joyeux Noël.
On ne dit pas joyeux Noël. On a le droit, oui.
Bon, moi, oui. Oui.
Alors, mes meilleurs vœux à tout le monde.
Vous êtes gentil.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la dégradation du Canada au point de vue mondial. Je trouve que on perd les plumes. Je suis pas un Canadien la main sur le cœur, là, mais il me semble que le Canada fait marche arrière à bien des points de vue. Et c'est déplorable. On a un premier ministre qui aime ça faire prendre sa photo, qui a des grandes idées. Écoutez, on n'arrête pas de bâcher notre premier ministre à Québec là sur l'environnement.
Ouais.
Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que les libéraux ont réussi à faire à Ottawa?
Ouais.
Nous acheter un pipeline à 4 milliards?
Mm-hmm.
Moi, ça me désole. Regardez là, notre l'entente qu'on vient de signer à genoux là, avec Trump. La Chine, on est où le Canada comme puissance mondiale?
On est assez affaibli, effectivement, vous avez raison.
On avait au moins des casques bleus il y a 15-20 ans. Là, on n'a même plus ça.
Merci.
On a un kid Kodak. Là. Je veux dire, après Harper, là, qui voulait...
Mais ça tombe bien parce que 2019, Gilles, c'est une année d'élection. Une année d'élection fédérale, on aura l'occasion de commencer l'année en se posant ensemble la question. Si on fait le bilan aujourd'hui avec mes invités de 2018, c'est clair qu'en début d'année, je vais vous relancer sur ce que vous attendez de 2019, clairement. En conclusion, il nous reste une minute, tous les trois, Régent Parent.
La dernière intervention, elle vient me chercher parce qu'effectivement, l'auditeur parle d'un affaiblissement du Canada, oui, en termes de politique extérieure.
Il a raison.
Et j'ai l'impression que M. Trudeau, sur cet aspect-là, est d'une faiblesse extrême, perdu des points. Là, je ne parlerai pas de son voyage en Inde qui était une catastrophe. Mais la négociation de l'ALENA ou un genou à terre, chez les Chinois, ben non, je ne peux pas les appeler. Là, je ne saurais pas quoi faire après s'ils me disent non. En tout cas, il me semble que ça ne va pas fort.
Stéphanie Grandmont.
C'est sûr que dans la même veine, là, toute la négociation avec Donald Trump cette année, là, quand on a vu Donald Trump pratiquement insulter Justin Trudeau là, en retournant aux États-Unis, c'était quand même assez humiliant. Et puis, bon, ben, l'accord a été signé, oui, c'est bien, mais il y a toutes sortes de choses qui sont passées sous le radar, puis on va en voir les conséquences.
Moi, je dirais que ça ne va pas vraiment bien pour le Canada. Le dossier avec la Chine, ces temps-ci, c'est pathétique. Ça va bien pour le Québec à de multiples niveaux, il faut le rappeler.
Voilà. Merci, vous avez été très bon. Très bon. Je vous souhaite
une bonne fin
d'année 2018, les amis. Christian Dufour, merci. Stéphanie Grandmont, merci d'avoir été là. Merci, Réjean.
Merci.
Merci.
On se retrouve après les nouvelles.